VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 17 juillet 2023. Un contingent de paramilitaires de Wagner débarque en République centrafricaine à quelques jours du référendum.
Cette procédure est illégale, le changement de constitution n'est pas prévu dans les normes juridiques centrafricaines.
Nous reviendrons sur le référendum constitutionnel en Centrafrique avec l'opposant Martin Zigele dans la partie magazine. La Libye vole au secours de 360 migrants subsahariens expulsés de la ville tunisienne de Sfax et abandonnés en plein désert, sans eau ni nourriture. La Russie suspend sa participation à l'accord sur les céréales en mer Noire. Les États-Unis dénoncent un acte de cruauté. Les États-Unis et la Chine relancent les négociations sur le climat à l'issue d'une visite à Pékin de John Kerry, l'émissaire américain pour le climat. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Co. Pour l'instant, le journal. Des dizaines de soldats du groupe paramilitaire russe Wagner sont arrivés en République centrafricaine pour aider à la sécurisation du référendum constitutionnel. Le 30 juillet a annoncé ce lundi la présidence à Bangui. Le point avec Nani Talani.
Chaque année, il y a une rotation. Certains partent, d'autres arrivent avec la logistique et ils le font régulièrement à tous les niveaux sur l'assistance militaire et administrative. Ils sont également ici pour sécuriser le référendum constitutionnel, a déclaré le porte-parole de la présidence, Albert Yaloké Mokpem, sans dire le nombre de nouveaux soldats. Les instructeurs russes vont continuer d'aider les militaires des forces armées centrafricaines et les forces de l'ordre de la RCA à assurer la sécurité en prévision du référendum constitutionnel prévu le 30 juillet, admet la communauté des officiers pour la sécurité internationale, un groupe lié à la formation paramilitaire russe. Lacossi ajoute que ses instructeurs forment depuis plus de 5 ans les forces de sécurité centrafricaines, permettant de renforcer le niveau de sécurité générale du pays. D'après les États-Unis, la COSI est une société écran pour le groupe Wagner en Centrafrique.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, la force régionale a annoncé aujourd'hui l'envoi d'une mission de vérification dans la zone où les rebelles du M23 démentent et sont accusés d'avoir tué 11 hommes en fin de semaine. Dans un communiqué, l'état-major de l'armée congolaise a affirmé que ces hommes jeunes, dont il a diffusé les noms, ont été froidement et lâchement exécutés par le M23. Le M23 n'est pas responsable de ce massacre, a rétorqué dans une déclaration le porte-parole politique du mouvement rebelle. 12 nouveaux corps ont été retrouvés du moins aujourd'hui dans la forêt de Chakaola, où se réunissait une secte évangélique pratiquant un jeûne extrême, portant à 403 le bilan de ce scandale macabre qui a secoué le Kenya. Les autorités s'attendent à voir le bilan s'alourdir encore. La police estime que la plupart des corps exhumés sont ceux d'adeptes du pasteur autoproclamé Paul Ntenge Mackenzie, qui prenait de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Cet ancien chauffeur de taxi est en détention depuis le 14 avril et va être poursuivi notamment pour terrorisme. Environ 360 migrants subsahariens ont été secourus ces derniers jours après avoir été abandonnés dans le désert. Selon les autorités libyennes, ces migrants ont été expulsés par la police tunisienne vers des zones inhospitalières près de la Libye et l'Algérie. Les détails avec Dili Diko.
Le ministère libyen de l'Intérieur a indiqué avoir documenté les expulsions de ressortissants subsahariens par les autorités tunisiennes. Au cours du week-end, les gardes-frontières libyens ont secouru 360 migrants, dont des femmes et des enfants. Ils ont été abandonnés sans eau, ni nourriture, ni abri, dans le désert, dans une zone inhabitée, près d'El Assa, à 150 km au sud-ouest de Tripoli. Ces migrants, visiblement épuisés et déshydratés, étaient assis ou allongés sur le sable et utilisaient des arbustes pour tenter de se protéger de la chaleur torride qui a atteint les 40 degrés Celsius. L'OIM assure qu'ils ont reçu des kits d'hygiène, des vêtements, des matelas et ont fait l'objet d'un examen médical. À la suite d'affrontements qui ont coûté la vie à un Tunisien, le 3 juillet, des centaines de migrants africains ont été chassés de Sfax. la deuxième ville de Tunisie.
L'Union européenne et la Tunisie ont signé dimanche un partenariat stratégique prévoyant la lutte contre les trafiquants d'êtres humains et le renforcement des frontières dans un contexte de multiplication du nombre d'embarcations de fortune quittant le pays d'Afrique du Nord à destination de l'Europe. Cet accord intervient après des semaines de négociations entre Tunis et Bruxelles qui a promis de fournir une aide d'1 milliard d'euros pour soutenir l'économie tunisienne, redresser les finances publiques et faire face à la crise migratoire.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie suspend sa participation à l'accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter ses céréales par la mer Noire. Pour les Nations Unies, des millions de personnes déjà vulnérables vont en payer le prix. Washington dénonce un acte de cruauté de Moscou. Alexandrine Ollognon.
L'accord de la mer Noire s'est de facto terminé aujourd'hui, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, ajoutant que l'Occident n'avait pas mis en œuvre les mesures destinées à faciliter les exportations russes. Le président russe Vladimir Poutine avait dénoncé les obstacles à l'exportation des produits alimentaires et engrais russes qui devaient accompagner celles des produits ukrainiens. Il a estimé que le principal objectif de l'accord, qui était la livraison de céréales aux pays dans le besoin sur le continent africain, n'était pas réalisé. Des centaines de millions de personnes vont payer le prix, selon Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Linda Thomas-Greenfield, représentante américaine à l'ONU, a dénoncé un acte de cruauté de Moscou. Berlin a appelé la Russie à rendre possible la prolongation de l'accord, jugeant très décevante l'annonce du Kremlin. Londres a estimé que les discussions vont se poursuivre.
La Russie a accusé aujourd'hui l'Ukraine d'une attaque meurtrière contre le pont de Crimée, voie essentielle d'approvisionnement pour les forces russes en Ukraine. Le comité antiterroriste russe a déclaré que les Ukrainiens ont eu recours à des drones de surface navale pour attaquer le pont. L'armée ukrainienne a en revanche émis l'hypothèse d'une provocation de la part des Russes eux-mêmes. Le cardinal italien Matteo Zuppi, envoyé du pape François pour la paix en Ukraine, sera à Washington de lundi à mercredi, a annoncé aujourd'hui le Vatican, quelques semaines après ses déplacements à Kiev, puis à Moscou. La visite de Mgr Zuppi s'inscrit dans le contexte de la mission visant à promouvoir la paix en Ukraine et vise un échange d'idées et d'opinions sur la situation tragique actuelle et à soutenir les initiatives dans le domaine humanitaire, indique un bref communiqué du Vatican sans préciser son programme. L'émissaire américain pour le climat John Kerry a rencontré ce lundi son homologue chinois à Pékin, marquant la reprise du dialogue entre les deux principaux pollueurs de la planète. Le point avec Eric Manirakiza.
Les deux hommes ont eu une réunion pendant 4 heures selon la télévision d'État. L'avenue de M. Kerry survient au moment où l'impact du changement climatique se fait particulièrement sentir sur la planète avec des vagues de chaleur dans de nombreuses régions du monde. Le changement climatique est un défi commun pour toute l'humanité, a commenté la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine échangera avec les États-Unis sur les questions liées au changement climatique et travaillera avec eux pour relever les défis et améliorer le bien-être des générations actuelles et futures, a-t-elle ajouté. L'administration Biden estime que le climat est l'un des domaines où les deux puissances qui se livrent une concurrence féroce peuvent coopérer. Le dialogue sur le climat avait été interrompu il y a près d'un an. La Chine avait suspendu pour protester contre le déplacement à Taïwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. L'ambiance semble désormais à la reprise des échanges, même si Washington veut afficher sa fermeté dans ce domaine. Ces derniers mois, les visites se sont multipliées depuis Washington pour réchauffer les relations diplomatiques. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est venu en juin, puis la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, début juillet.
L'hémisphère nord aborde aujourd'hui une nouvelle semaine de chaleur accablante, avec plus de 40 degrés attendus en Italie et en Espagne, un record de température en Chine et des feux dévastateurs au Canada et en Californie. Les services météo observent une vague de chaleur oppressante dans le sud des États-Unis et prévoient plusieurs records de température dans la célèbre vallée de la mort en Californie, l'un des endroits les plus chauds de la planète. Le thermomètre a affiché 52 degrés Celsius dimanche. Les discussions sur la restructuration de la dette ont peu progressé. Lors de la troisième réunion des ministres des Finances des pays du G20 en Inde, le bloc n'ayant pas été en mesure de surmonter ses principales divergences et la faible participation en raison de problèmes intérieurs. Les ministres des Finances des pays du G20 se sont réunis dans l'état du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, dans l'espoir d'obtenir des accords sur la restructuration de la dette des pays vulnérables. On termine par l'Égypte. Au moins 8 personnes ont été tuées aujourd'hui au Caire à la suite de l'effondrement d'un immeuble de 5 étages. L'immeuble situé dans le quartier de Adayek El Koba, dans le centre de la capitale égyptienne, une zone à forte concentration de logements informels. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
Les agriculteurs soudanais disent que les combats empêchent les cultures d'être semées, mettant en péril la production agricole et menaçant de plonger le Soudan encore plus dans la faim et la pauvreté. D'après Reuters, des agriculteurs, des experts et des travailleurs humanitaires dans plusieurs États signalent des retards pour planter le sorgho et le mil, en partie en raison d'un manque de crédit des banques et des prix élevés des engrais, des semences et du carburant. En Libye, la production a repris sur 2 sites pétroliers majeurs, Al-Sharara et Al-Fil, après une fermeture forcée jeudi par des personnes protestant contre l'interpellation de l'ancien ministre des Finances, Farage Boumtari, à son arrivée à Tripoli. D'après des médias locaux, M. Boumtari a été relâché. Al-Sharara produit 315 000 barils par jour de brut et Al-Fil, quelques 70 000 barils. Pour terminer, l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne a expiré ce lundi à la suite de la décision d'un tribunal européen qui a empêché son renouvellement, a annoncé l'Espagne, dont une vingtaine de bateaux avaient obtenu ces 3 dernières années une licence pour pêcher dans les eaux marocaines. La Commission européenne a fait appel du jugement, mais le verdict n'est pas attendu avant 2024.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le Maroc remporte l'AfroCan en Angola.
Oui, les Lions de l'Atlas s'offrent la 2e édition de ce tournoi réservé aux joueurs locaux suite à leur difficile victoire obtenue en finale face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, 78-76. Une belle consécration pour le pays 58 ans après son dernier sacre continental. Le Maroc succède ainsi à la RDC qui finit 4e battu lors de la petite finale par le Rwanda 82-73. Le pays hôte, l'Angola, termine à la 7e place devant le Nigeria. La Tunisie victorieuse 67-59 du Kenya prend la 5e place.
NBA, LeBron James reprend le numéro 23.
La cause, les Lakers retirent le numéro 6 de Bill Russell en hommage à la légende. C'est ce numéro que portait LeBron James jusque-là. Du coup, King James va reprendre le numéro 23 la saison prochaine. Ce changement intervient après le décès le 31 juillet 2022 de l'ancienne star 11 fois champion de NBA et 5 fois désigné MVP de la saison, a expliqué l'agent de James, Rich Paul. James, qui va entamer à 39 ans une 21e saison de NBA, a remporté 4 fois le titre et a été 4 fois MVP. Il a déjà joué plusieurs saisons avec le 23, notamment lors de ses passages aux Cavaliers de Cleveland et en basket universitaire.
Le président de la Fédération algérienne de football rend son tablier.
Djaïd Zefizef a rendu sa démission dans une vidéo publiée sur le site officiel de la Fédération. Moins d'un an après son arrivée à la tête de la Fédération algérienne de football, il a été poussé donc vers la sortie après son échec aux élections du comité exécutif de la CAF qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, battu par le Libyen Al-Shamaini. Cette déroute scelle le destin de celui qui avait succédé à Sharaf Eddine Amara, lui aussi parti suite aux très nombreuses critiques.
L'Inter Miami officialise l'arrivée de Lionel Messi et Sergio Busquets.
Devant des milliers de fans euphoriques mais trempés, l'Inter Miami a présenté sa nouvelle égérie, le septuple ballon d'or argentin Lionel Messi, entré sur la pelouse avec environ une heure de retard à cause de la météo. Ni la pluie battante, ni le tonnerre n'ont empêché d'entendre les cris des 20 000 fans amassés dans le stade du club floridien pour accueillir leur nouvelle star comme lui. Sergio Busquets, qui s'est engagé jusqu'en 2025 avec l'Inter Miami, a été présenté au public. L'Inter Miami peine depuis plusieurs saisons à MLS où ses résultats sont décevants. Il reste sur 11 matchs sans victoire et a enregistré samedi sa 14e défaite en 22 sorties cette saison.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dillon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Centrafrique, la campagne pour le référendum sur le projet de la nouvelle constitution, prévu le 30 juillet prochain, s'est ouverte samedi sur l'ensemble du territoire national. La plateforme des partis de l'opposition, regroupée au sein du Bloc républicain pour la défense de la constitution, après sa marche du vendredi dernier dans les rues de la capitale, appelle la population à boycotter le référendum. Félix Yepassi Zembrou a recueilli la réaction de Martin Ziguélé, porte-parole du Bloc républicain pour la défense de la Constitution.
La position du BRDC est claire. Cette procédure est illégale et ce n'est pas le BRDC qui le dit, c'est un arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est ce qui a valu à Mme Darlan d'être limogée. Cette procédure est illégale. Le changement de constitution n'est pas prévu dans les normes juridiques centrafricaines. Donc, il s'agit d'une illégalité, d'une escroquerie politique et d'un coup d'État constitutionnel. Et en tant que démocrate et républicain, nous ne participons pas à ce processus. Donc, nous le boycottons.
Donc, quelles actions le BRDC compte mettre en place en vue de ce référendum qui aura lieu le 30 juillet prochain? Vous appelez à voter non ou...
Nous n'appelons pas à voter non. Appeler à voter non, c'est participer au processus. Dès que le moment où le processus est illégal, comme je vous ai dit, on ne peut pas y participer. Donc, on demande à la population de rester chez elle et que le vote n'ait pas lieu dans les agglomérations et les circonscriptions où ils ont. Parce que c'est tout simplement de l'illégalité. L'illégalité, c'est de l'illégalité. Ça ne peut pas être réparé par la volonté d'un individu qui veut, en fait, le pouvoir à vie, la présence à vie, qui bafouille les règles, les normes, tout ce que les textes en vigueur ont prévu, il le bafouille, il écrase ça, du fait qu'il est président de la République et qu'il dispose de la force. Et pour imposer ça aux Centrafricains, nous disons non. Non, comme en Tunisie, nous avons dit non à l'Empire.
Ce sera donc le vote du non ou alors l'abstention, ou alors c'est quoi exactement?
Non, la position du BRDC, c'est de boycotter. Le boycott, c'est-à-dire que tous les Centrafricains qui estiment que leurs droits ont été violés ne participent pas au vote. Et là où, dans les circonscriptions, les agglomérations, partout, personne ne participe au vote.
Monsieur Martin Ziguélé, qu'est-ce que vous rejetez dans le projet de la nouvelle constitution?
Commenter la nouvelle constitution, c'est déjà accepter que c'est une constitution sur laquelle on peut se prononcer. Or, je vous dis que la démarche est illégale. Comme on dit, la forme tient le fond à l'État. Donc, d'abord, c'est un processus illégal et que la Cour constitutionnelle, qui est la juridiction suprême en matière de constitutionnalité dans notre pays, a dit que cette démarche est illégale. Nous en tenons cela. Sinon, je pourrais vous citer des dispositions complètement absurdes, telles que le problème de centrafricanité d'origine. Pour qu'il connaît l'histoire de la RTA, ça veut dire que Bougana, qui a épousé une Française, si un fils ou une fille du président Bougana devait se présenter aujourd'hui comme député de la Nouvelle ou comme dans la présidentielle, il n'en aurait pas droit. C'est quand même une aberration.
Qu'en sera-t-il si le 8 l'emporte le 30 juillet prochain?
Mais nous travaillons pour qu'il n'y ait pas d'élection et que le 8 ne l'emporte pas. Et qu'il n'y ait même pas de vote par rapport à ce projet qui est illégal, je vous le dis. C'est une position de principe. Donc tout ce qui se passe ne nous engage pas.
Martin Ziguélé, porte-parole du BRDC, Bloc républicain pour la défense de la Constitution.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
L'ONU classe régulièrement le Tchad parmi les pays les plus pauvres, avec une espérance de vie, une éducation et un niveau de vie très bas. Dans ce reportage à N'Djamena, au Tchad, Henry Wilkins s'est entretenu avec des habitants qui luttent pour un avenir décent pour leur famille et aux experts sur ce qui peut être fait pour relancer le développement dans ce pays. Le récit avec Abdourahman Dia.
Dans la capitale tchadienne, N'Djamena, Ola Suleiman est assise au bord de la route, cassant des pierres utilisées dans la construction qu'elle compte vendre. Elle dit que la vie pour elle et sa famille est très dure, mais elle ne voit pas un autre moyen de gagner sa vie.
C'est très difficile de vivre ici sans argent. Mes enfants ne peuvent pas aller à l'école pour être bien éduqués. Nous acceptons cette situation car nous n'avons pas d'autre choix.
Le Tchad, avec ses voisins, le Niger et la République centrafricaine, se retrouve constamment au bas de l'indice de développement humain des Nations Unies. 6,5 millions de Tchadiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, un nombre qui a augmenté de 38% entre 2011 et 2019 selon la Banque mondiale. Omar Bouarid, mère de 4 enfants, a perdu sa maison dans les inondations qui ont dévasté certaines parties du Tchad il y a 1 an et vit maintenant sur un terrain de football à N'Djamena.
C'est vraiment difficile de trouver un bon travail. Les gens souffrent. Tous les gens ici ont du mal.
Alors que pendant des décennies, les organisations à but non lucratif et les banques de développement ont investi de l'argent dans des projets visant à stimuler la croissance dans des pays comme le Tchad, beaucoup en Afrique centrale se demandent pourquoi il semble y avoir peu de progrès. L'économiste nigérian Kingsley Mogalu estime que l'augmentation de la population est un facteur majeur. Le Tchad a un taux de natalité de 6,5 enfants par femme contre moins de 2 dans de nombreux pays développés.
La croissance démographique incontrôlée est une des causes pour maintenir les cycles de la pauvreté, en fait, créer plus de conflits à l'avenir, parce que la bataille pour les ressources devient plus forte et plus aiguë.
En Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, les conflits liés aux ressources sont de plus en plus fréquents, selon de nombreux experts, ce qui entraîne à son tour davantage de problèmes de développement. Hans Freters est le responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Niger.
Beaucoup de ces ressources, le peu de ressources dont ils disposent, ils doivent investir dans leur armée et leurs forces de sécurité. Il y a lieu de savoir ce qui est prioritaire. Le gouvernement doit-il investir davantage dans l'éducation et moins dans sa propre sécurité?
Les experts qui se sont confiés à la VOA ont convenu que la volonté politique et la mobilisation internationale sont nécessaires pour briser ces cycles de pauvreté et pour résoudre les problèmes de développement.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Une conférence internationale sur le thème espace, solidarité et solutions rassemble un groupe de femmes à Kigali, la capitale du Rwanda. Ce forum se déroule jusqu'à jeudi prochain. Eric Manirakiza a joint sur place le docteur Alice Mudekereza, chargée des programmes à Chorus International à Kinshasa.
L'objectif et l'intérêt de cette conférence, c'est de pouvoir créer des espaces inclusifs, des espaces créés ensemble, en synergie, pour pouvoir établir une certaine solidarité entre les différents acteurs qui travaillent sur la situation de la femme dans le monde en vue de l'améliorer. Et cette solidarité pourrait nous emmener tous ensemble à pouvoir trouver des solutions durables et les mettre en place pour être sûr d'assurer l'égalité des genres, de permettre à la femme de s'épanouir, de se promouvoir, de trouver sa place dans les communautés d'une façon, je dirais, équitable, d'une façon égale, si je peux le dire ainsi, entre les genres.
Et comment les femmes peuvent-elles travailler ensemble de manière solidaire pour résoudre les problèmes sociaux les plus pressants auxquels elles sont confrontées aujourd'hui?
Ici en Afrique centrale, en Afrique des Grands Lacs, on se rend compte que les problèmes qui se posent liés aux droits des femmes, à la santé de la reproduction, au trafic des personnes, à la pauvreté même, c'est dans plusieurs cas liés à des situations de guerre, situations de conflits armés. Et les efforts sont fournis par les femmes elles-mêmes, par les différents partenaires comme Chorus International, Imawood Wealth et d'autres. Mais on se rend compte que à la base, il y a ce problème de guerre, d'insécurité qui persiste et qui ne permet pas aux femmes de se développer et de s'épanouir.
En tant que femme leader, quelles sont les principales leçons que vous avez apprises au cours de votre parcours?
Au cours de mon parcours, j'ai appris que les femmes sont aussi capables d'apporter leur pierre à l'édification du monde, à la construction des pays, à la mise en place de toutes les grandes dynamiques qui peuvent exister. Je l'ai appris sur mon parcours et je voudrais l'apprendre aux jeunes filles qui sont en train d'émerger et aux autres femmes de ne pas être découragées ou intimidées. Les femmes sont aussi capables de participer, de contribuer à la construction du monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes ont besoin qu'il y ait la paix. Les femmes ont besoin qu'on mette fin à la guerre. Les femmes ont besoin qu'il y ait la sécurité parce qu'elles sont là, elles sont dynamiques, elles sont prêtes pour travailler. Mais il nous faut ce cadre. Nous voulons bien contribuer à ce cadre-là, mais le gros ne dépend pas des femmes directement.
Docteur Alice Moudé-Kereza, chargée des programmes à Chorus International à Kinshasa, en RDC. La Coupe du monde de football féminin débute ce jeudi 20 juillet en Nouvelle-Zélande et en Australie. La compétition prendra fin le 20 août, date à laquelle on saura qui va succéder aux États-Unis, champions en titre. L'Afrique va être représentée par 4 pays, le Maroc, la Zambie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Nous vous proposons une série sur la présentation de ces formations africaines qui prennent part au mondial féminin. Focus aujourd'hui sur les Bayana Bayana, l'équipe sud-africaine. Yakuba Ouedraogo.
C'est dans la peau d'une équipe championne d'Afrique en titre que l'Afrique du Sud va disputer sa deuxième Coupe du Monde féminine. Connue sous le nom de Bayana Bayana, l'équipe est toujours à la recherche de sa première victoire dans l'épreuve reine après ses débuts en 2019 sous les ordres de sa même coach Désiré Ellis.
Nous n'y allons pas seulement en tant que représentante de l'Afrique, mais aussi en tant que championne d'Afrique. Je pense que cela met un peu plus de pression sur tout le monde. Mais vous connaissez la Coupe du Monde, je pense qu'elle sera beaucoup plus difficile cette fois-ci.
Les Bayana Bayana sont logés dans le groupe G. Il comprend la Suède, qui n'a manqué qu'une seule fois de passer la phase de groupe, l'Italie qui a déçu lors de l'Euro 2022, et l'Argentine qui n'a pas gagné un seul match lors de ses 3 dernières participations au Mondial. Désiré Ellis, qui a déjà joué plusieurs finales de la CAN avec ses protégés, le sait. L'objectif des 8e de finale s'annonce difficile, mais pas impossible.
Nous ne sommes pas naïves, mais lorsque vous participez à un tournoi, vous voulez bien faire. Je pense que le premier match est le plus important. Nous devons prendre un bon départ et obtenir un résultat positif. Pour l'instant, j'ai dit que nous devons sortir de la phase de groupe. Ce ne sera pas facile, mais nous avons confiance en nos joueuses.
Après avoir remporté la CAN, l'Afrique du Sud a connu une série noire, ne gagnant que 3 de ses 9 matchs suivants. Pas de quoi vraiment s'inquiéter pour la gardienne des Bayana Bayana, Kaylin Swartz.
Oui, nous avons gagné la CAN et après cela, il y a eu quelques matchs. Je pense que la fatigue s'est un peu fait sentir, mais il n'y a pas d'excuse. Nous devons être meilleurs en tant qu'équipe. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup travaillé sur l'aspect défensif pour qu'une fois au Mondial, nous soyons suffisamment solides pour nous défendre face aux équipes que nous allons affronter.
Début juillet, la préparation de l'équipe a été entachée par un conflit avec la fédération sur les salaires et d'autres questions. Les joueuses cadres ont refusé de prendre part à un match amical face au Botswana, estimant que le terrain n'était pas approprié pour une rencontre de préparation d'un mondial. La fédération a déclaré que le conflit salarial a finalement été résolu grâce à un don d'un joueur de football. De quoi recréer la sérénité dans le groupe comme lors de leur CAN réussie. Désiré Ellis, coach de l'Afrique du Sud.
La solidarité et l'unité dont nous avons fait preuve nous ont vraiment permis de nous en sortir et je pense que cela leur servira de leçon. Je sais qu'elles ont fait preuve de beaucoup de caractère, mais cette Coupe du Monde est d'un niveau supérieur. Donc quoi que nous ayons fait là-bas, il faudra que nous soyons à un niveau supérieur pour atteindre notre objectif.
Les Bayana Bayana entrent en lice le 23 juillet face à la Suède. Cette rencontre permettra de jauger le niveau réel de l'Afrique du Sud après une CAN remportée l'année dernière et une série de matchs perdus juste après.
Stage right now, singing your favorite song. Look, walk in the crowd, even know where to be found as they sing along. I say, you look good without no makeup, no lashes, even better when you wake up. I see the look on your face, I see you hiding in the hate. I see you looking for someone to scoop you right off your feet. You wanna ride in the rain.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée.